الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Voici le deuxième cours de l'explication du livre du noble Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, les réponses profitables aux questions des méthodologies nouvelles, avec l'explication du noble Cheikh Ali Ramli, Hafizahullah. Le sujet du cours aujourd'hui est l'innovation, sa réalité, son danger et le critère pour affilier une personne ou un groupe à celle-ci. La question posée au noble Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah, est: qui subira un châtiment plus sévère, les pécheurs ou les innovateurs? Le Cheikh répond, Hafizahullah, les innovateurs sont plus châtiés, car l'innovation est plus grave que le péché. L'innovation est plus aimée par Shaitan que le péché, car le pécheur peut se repentir, tandis que l'innovateur ne se repent que très rarement. Il pense qu'il est sur la bonne voie, contrairement au pécheur qui sait qu'il est désobéissant et qu'il commet un péché. L'innovateur, quant à lui, croit qu'il est obéissant et qu'il est sur l'obéissance. C'est pourquoi l'innovation qu'Allah nous en préserve est pire et plus grave que le péché. C'est pour cela que le pieux prédécesseur mettait en garde contre le fait de s'asseoir auprès des innovateurs, car ils influencent ceux qui les côtoient et leur danger est très grave. Il n'y a aucun doute que l'innovation est plus mauvaise et plus grave que le péché, et que le danger de l'innovateur est plus grand pour les gens que celui du pécheur. C'est pourquoi les pieux prédécesseurs disaient « Peu d'efforts dans la sunna est meilleur que beaucoup d'efforts dans l'innovation » et cela a été rapporté par Al-Marwazi dans Al-Sunna ainsi qu'Ibn Battah dans Al-Ibana d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Commentaire du noble Cheikh Ali Ramli, hafidhahullah. Il dit « La question porte sur lequel d'entre le pécheur et l'innovateur sera le plus châtié. Le Cheikh, qu'elle a le récompense, a répondu que les innovateurs subiraient un châtiment plus sévère que les pécheurs, et que l'innovation est pire que le péché. Et ceci est l'avis des pieux prédécesseurs, radiyallahu anhum. Et leurs paroles sont nombreuses à ce sujet. Parmi celles-ci, la parole de Sufyan al-Thawri, rahimahullah, dans laquelle il dit « L'innovation est plus aimée par Iblis que le péché, car on se repent du péché, mais de l'innovation, on ne se repent pas. » Et cela montre l'une des différences entre l'innovation et le péché. Si nous comprenons cela, il est alors nécessaire de connaître la réalité de l'innovation. Nous disons donc, l'innovation concerne toute forme d'adoration par laquelle on cherche à se rapprocher d'Allah sans qu'elle ait de fondement dans le Coran et la Sunna et qui n'était pas pratiquée par les pieux prédécesseurs. Cela peut être une adoration dans les paroles, les actes ou la croyance. Ainsi, toute forme d'adoration par laquelle on cherche à se rapprocher d'Allah et qui n'a pas de fondement dans la législation divine est une innovation. Les dangers des innovations religieuses se manifestent sous plusieurs aspects. Le premier aspect, le danger pour l'innovateur lui-même. En effet, l'innovateur a commis une erreur et un grand péché, car l'innovation est un péché dont on ne se repent pas. L'innovateur le plus souvent ne se repent pas, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala en décide autrement. Car il pense être dans le vrai. Il fait partie de ceux, comme Allah a dit, traduction du sens rapproché, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'il s'imagine faire le bien. Comment pourrait-il se repentir alors qu'il croit se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette action et se considère en train de faire le bien? Il ne se repentira pas à moins qu'Allah ne le veuille autrement. Quant aux pécheurs, et on veut dire ici, par péché, on entend ceux qui ne sont pas des actes de mécréance et ne constituent pas des innovations, comme l'adultère, le vol et autres. Il sait en lui-même qu'il commet un péché, c'est-à-dire que le pécheur sait en lui-même qu'il commet un péché, et que ce qu'il fait ne satisfait pas Allah. Peut-être qu'un jour il se repentira et reviendra vers Allah subhanahu wa ta'ala et demandera pardon et se repentira. Et tout sera terminé. C'est là le premier aspect du danger de l'innovation. Le deuxième aspect réside dans le fait que l'innovation est un changement de la religion d'Allah, ce qui est encore plus dangereux. Quant au péché, il n'implique pas de changement de la religion d'Allah. La religion est préservée et tout le monde te dira ceci est licite ou ceci est illicite. Mais l'innovation constitue un changement de la religion d'Allah et le fait d'inventer une nouvelle religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'approuve pas et ne veut pas. De la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous l'adorions, il a également voulu que nous l'adorions de la manière qu'il aime et approuve, et non pas selon nos désirs. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la prière de Dhuhr en 4 unités, cela montre qu'il ne veut pas qu'elle soit accomplie en 5 ou en 3 unités. Il en va de même pour les autres actes d'adoration. Si Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit une forme d'adoration, cela indique qu'il veut que nous nous rapprochions de lui de cette manière et de cette façon. Par contre, ce qu'il n'a pas prescrit signifie qu'il ne veut pas que nous nous rapprochions de lui par celle-ci, même si nous pensons qu'elle est bonne. Ainsi, le plus grand danger de l'innovation est qu'elle représente un changement de la religion d'Allah. Regardez donc certaines personnes qui ont ouvert les portes des innovations, sans les combattre, cherchant à se rapprocher d'Allah à travers celles-ci. Prenez par exemple les chiites et les soufis. Ce sont 2 grands exemples dans cela. Ils ont ouvert les portes de l'innovation à eux-mêmes et ont commencé à commettre toutes sortes d'innovations jusqu'à ce que cela devienne une nouvelle religion pour eux. Au point que l'on trouve à peine chez eux quelque chose de la religion d'Allah, telle qu'elle a été prescrite dans son livre et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf de rares exceptions. Et voici le danger des innovations. Elles finissent par créer une nouvelle religion avec laquelle on prétend adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ancienne religion qu'Allah a prescrite par la langue de son prophète disparaît. C'est là le plus grand danger de l'innovation. Elle conduit à la perte de la religion d'Allah, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de préserver et d'établir, et sur laquelle repose l'alliance et le désaveu. Quant à l'innovateur, il ne s'en soucie pas. Il modifie et altère la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala à sa guise, légiférant ce qu'il veut de sa propre initiative jusqu'à ce qu'il ait une nouvelle religion et qu'il suive ce qui est ambigu, s'y accrochant par passion. Quant au 3e aspect, il concerne la parole de l'imam Malik, radiyallahu anhu, dans lequel il dit, l'imam Malik, rahimahullah, a dit, quiconque innove dans l'islam une innovation qu'il considère comme étant bonne a certes prétendu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens du verset, « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, ce qui n'était pas... » Et ensuite l'imam Malik dit, « Ce qui n'était pas considéré comme une religion à ce moment-là ne peut pas l'être aujourd'hui. » Et ceci est correct. D'où vient donc cet innovateur avec cette nouvelle forme d'adoration? Si elle avait été légitime, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait enseignée. Le fait qu'il ne l'ait pas enseignée et que l'innovateur affirme qu'elle est légitime implique que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait trahi le message et ne l'aurait pas complètement transmis. Quant au 4e aspect, il concerne la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Quiconque juge une chose comme étant bonne l'a certes légiféré. Ainsi, lorsqu'on juge qu'une nouvelle forme d'adoration est bonne, on a effectivement légiféré une nouvelle législation. Par conséquent, on se fait ainsi législateur à la place du Seigneur des mondes, car la législation appartient à Allah seul. Ce sont des implications qui persistent concernant celui qui innove dans la religion d'Allah. C'est de tout cela que réside le danger de l'innovation. C'est pourquoi vous constatez que les gens de la sunna sont ceux qui combattent le plus les innovations et leurs adeptes. Ce n'est que pour préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa législation dans leur pureté et leur clarté. Si les pieux prédécesseurs n'avaient pas combattu les innovations et les innovateurs, la religion ne vous serait pas parvenue pure, claire et correcte, telle qu'elle a été révélée par Allah à son prophète, comme c'est le cas aujourd'hui. Car si tout le monde se taisait, sans clarifier, et que tous considéraient les innovations et les transgressions comme bonnes à chaque époque, vous verriez avec le temps apparaître de nouvelles choses. La religion d'Allah serait alors modifiée et il n'en resterait rien. nous finirons par être semblables aux chiites et aux soufis. Mais parmi les bénédictions et les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous en premier lieu, ensuite ce que les savants des salafs ont accompli par leurs efforts et leurs combats pour préserver cette religion et combattre l'innovation et les innovateurs, la religion nous est parvenue pure et claire. Notre devoir aujourd'hui est de faire ce que nos pieux prédécesseurs ont fait, en accomplissant ce qu'Allah nous a rendu obligatoire, c'est-à-dire de préserver cette religion et combattre l'innovation et les innovateurs pour que la religion reste pure et claire, et qu'elle parvienne à ceux qui viendront après nous, tout comme elle nous est parvenue. Nous devons examiner en nous-mêmes. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Et qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce la préservation de la religion d'Allah? Veiller à sa pureté, à la maintenir intacte pour qu'elle parvienne aux générations futures telles qu'elle nous est parvenue? Ou est-ce l'amour et l'admiration pour les hommes? Le premier doit être ce qui prime dans nos cœurs, car c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Quant aux hommes, ils naissent et meurent, mais la religion est ce qui demeure. Et cette question, la question de la comparaison entre le péché et l'innovation, et du fait que l'innovation est plus grave que le péché, est l'un des points de divergence entre nous et les laxistes. Les laxistes, bien qu'ils considèrent l'innovation comme grave, ils estiment cependant que l'innovateur est dans une meilleure situation que le pécheur. C'est ce que nous observons dans la réalité. Car pour eux, l'innovateur est toujours excusé. Ils disent de lui qu'il a fait un effort d'interprétation, mais s'est trompé. C'est leur argument. C'est pourquoi ils le soutiennent, l'aiment, s'assoient avec lui, le défendent et combattent celui qui suit la sunna et met en garde contre lui et contre sa voix. Et c'est l'un des principes fondamentaux qui nous différencie des Mumayya'a, c'est-à-dire des laxistes. D'ailleurs, je dis, c'est exactement ce qu'on retrouve chez certains ignorants qui propagent des faussetés sur les réseaux sociaux comme Twitter et autres. Vous pouvez lui apporter 1000 preuves concernant les erreurs de son cher. Ceci dit, il va toujours trouver des excuses. Allahul Musta'an. Ensuite, le cher dit, ces personnes en réalité, soit n'ont pas compris le sens du suivi, c'est-à-dire l'ittiba, que nous devons suivre et qu'Allah nous a imposé, qui est le fondement de notre méthodologie, soit elles l'ont compris, mais cherchent à tromper ceux qui les entourent. Comment peut-on concilier le suivi avec l'effort d'interprétation dans des questions où le suivi est obligatoire? Il n'est permis à personne de faire un effort d'interprétation dans ces questions, car il nous est obligatoire de suivre. Par exemple, on ne peut pas dire « le Ash'ari a fait un effort d'interprétation en niant les attributs d'Allah, et il a certes commis une erreur ». N'a-t-on pas ordonné à cet Ash'ari de suivre le livre d'Allah, la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la voix des pieux prédécesseurs? N'a-t-on pas ordonné aux kharijites de suivre le livre d'Allah, la sunna de son prophète et la voix des compagnons? Pourquoi alors ont-ils contredit cela et se sont-ils engagés dans l'effort d'interprétation? Ces personnes ont fait un effort d'interprétation dans un domaine où elles étaient tenues de suivre, contredisant ainsi la méthodologie qui leur avait été imposée, et ne sont donc pas excusés. C'est là l'une des plus grandes différences entre nous et les laxistes. En réalité, ils ne suivent pas les enseignements de l'islam. Ils sont eux-mêmes des innovateurs qui soutiennent les innovateurs, et défendent et les aiment, prétendant qu'ils ont fait un effort d'interprétation et se sont trompés. Leur fondement lui-même est une innovation. On peut leur dire, les pieux prédécesseurs ne savaient-ils pas que les innovateurs avaient fait un effort d'interprétation et s'étaient trompés? Alors pourquoi les ont-ils combattus? Pourquoi les ont-ils dénoncés? Et pourquoi sont-ils unanimes sur l'obligation de les détester, de s'éloigner d'eux et de mettre en garde contre eux? Ce consensus a été rapporté par Al-Barawi dans son livre Sharh al-Sunna, ainsi que par Abu Uthman al-Sabouni dans son livre Aqidatu al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Et les récits des pieux prédécesseurs à ce sujet sont très nombreux. Vous les trouverez dans les livres d'Al-Lalaka'i, dans le livre d'Al-Ajuri, dans le livre d'Al-Khalal et dans le livre de Abdullah ibn al-Imam Ahmed, rahimahumullah ta'ala, ainsi que dans beaucoup d'autres. Consultez-les et prenez garde. Barakallahu fikum. En résumé, l'innovation est plus grave que le péché. Et elle représente un plus grand danger pour la religion d'Allah. L'innovateur est en contradiction avec l'ordre d'Allah concernant le suivi, l'ittiba. Allah lui a ordonné de suivre, mais il a désobéi et a entrepris et un effort d'interprétation. Peu importe ce qui se trouve dans son cœur, qu'il l'ait fait, cet effort d'interprétation par désir personnel ou non, cela ne nous concerne pas. Ce qui nous importe, c'est ce qui est apparent. Il a fait un effort d'interprétation dans un domaine où il lui était obligatoire de suivre, et ainsi il s'est égaré. C'est ce que nous avons comme conviction, et c'est la position des pieux prédécesseurs. Qu'Allah les agrée. Ensuite, la question est posée à Cheikh Saleh Al-Fawzan. Est-ce que celui qui s'affilie à des groupes est considéré comme un innovateur? Le Cheikh répond, cela dépend des groupes. Celui qui s'affilie à des groupes qui contredisent le Coran et la Sunna sont considérés comme des innovateurs. Le Cheikh Ali Ramli commente en disant, cette question concerne le jugement de celui qui s'affilie à des groupes. Notre fondement dans cela, barakallahu fikum, repose sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, ma communauté se dividera en 73 groupes. Un seul sera au paradis et 72 seront en enfer. On lui demanda, ô messager d'Allah, qui sont-ils? Il répondit, le groupe, al-jama'a. Et dans une autre version, ce sur quoi je suis moi et mes compagnons. Et dans le hadith d'Al-Irbad ibn Sariya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vivra parmi vous, après moi, verra beaucoup de divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califs bien guidés. Cramponnez-vous-y fermement et mordez-y avec vos molaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc clarifié dans ces deux hadiths que des groupes déviants apparaîtront inévitablement et que tous seront en enfer sauf un groupe qui représente la vérité. Et il a expliqué quel est ce groupe en disant « al-jama'a », c'est-à-dire le groupe, et dans une autre version « ce sur quoi je suis moi et mes compagnons ». Dans le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califs bien guidés. Cramponnez-vous-y fermement et mordez-y avec vos molaires. » Ainsi, le critère pour qu'une personne soit considérée comme faisant partie des gens de la sunna est qu'elle se conforme au livre d'Allah, à la sunna de son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à la voix des pieux prédécesseurs. Il ne suffit pas de dire « Je suis le Qur'an et la Sunna. » Car chacun des groupes existants aujourd'hui, ou la plupart d'entre eux, prétend suivre le Qur'an et la Sunna. Cependant, ils interprètent le Qur'an et la Sunna selon leurs passions et leurs désirs. Quel est alors le critère pour connaître la vérité à ce sujet? C'est de revenir à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis en toute vertu. C'est le principe fondamental à partir duquel découlent tous les autres principes. Quiconque en contredit, ne serait-ce qu'un seul fondement, devient un innovateur et n'est pas considéré parmi les gens de la Sunna. Comme l'a expliqué l'imam Ahmed dans son livre Usul al-Sunna, il a dit « Et parmi les principes essentiels de la Sunna, quiconque abandonne l'un de ses fondements, ne l'accepte pas et n'y croit pas, n'en fait pas partie de celle-ci. » Cela montre clairement qu'il existe des principes fondamentaux de la sunna et du groupe. Et c'est en réunissant ces fondements qu'une personne devient sunnite. Et c'est en les délaissant, ne serait-ce qu'un seul fondement, qu'elle sera considérée comme étant innovatrice. Ce sont ces fondements qui servent de critères et de balance. Si quelqu'un les adopte, y croit, et met en pratique ce qu'ils impliquent, il est alors sunnite. S'il en contredit un seul, il est innovateur. Telle est la conclusion des propos de l'imam Ahmed, et les savants, ainsi que les salafs, ont rassemblé ces principes dans les livres de croyance. Parmi les paroles de Salaf, il y a celle de Soufiane ibn Uyayna, rahimahullah, comme on trouve dans sa croyance rapportée par Al-Lalakai avec sa chaîne de transmission. Il dit, rahimahullah, la sunna est constituée de 10 fondements. Celui en qui ces fondements sont réunis a certes complété la sunna, et celui qui en abandonne un seul a abandonné la sunna. De même que la parole de l'imam al-Barbahari dans son livre « Sharh al-Sunnah », il dit, rahimahullah, « Il n'est pas permis à un musulman de dire « un tel est un adepte de la sunna » jusqu'à ce qu'il soit certain que les caractéristiques de la sunna se sont réunies en lui. On ne peut le considérer comme un adepte de la sunna que lorsque toutes les caractéristiques de la sunna se trouvent réunies en lui. » Et Nu'aym ibn Hammad, un des savants de Salaf, a dit, celui qui délaisse un hadith connu et ne le met pas en pratique, cherchant à trouver une raison pour le rejeter, est un innovateur. Un hadith connu, c'est-à-dire un hadith connu ou un seul fondement. Quelles sont les caractéristiques de ce hadith connu? C'est-à-dire l'authenticité. C'est-à-dire qu'il est, considéré comme authentique auprès des salafs. C'est-à-dire qu'il ne comporte aucune défaillance. Par exemple, le hadith connu de la servante, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé, où est Allah? Elle a répondu, dans le ciel. Il a dit, affranchis-la car elle est croyante. Ce hadith est considéré comme authentique par les salafs, et son sens est clair et explicite selon eux. Il n'y a pas de contradiction authentique dans ce hadith. Quant aux ambiguïtés, elles n'ont pas d'importance. Ainsi, selon ces critères, ce hadith est considéré comme explicite et quiconque le contredit a certes contredit un des fondements des gens de la sunna. Le hadith de la servante est un hadith authentique sans aucune ambiguïté. Quant à son authenticité pour les salafs, indépendamment des innovateurs qui cherchent à le rendre faible pour s'en débarrasser. Même les anciens innovateurs ne le rendaient pas faible, mais cherchaient plutôt à altérer son sens. Cependant, depuis que les gens ont osé s'attaquer à la religion d'Allah, ils ont commencé récemment à le rendre faible. En résumé, ce hadith est authentique et incontestable selon les salafs. C'est cela le critère, qu'il soit authentique selon les salafs, indépendamment des avis des générations qui sont venues après les trois premières générations et des innovateurs, à qui nous ne prêtons aucune attention. De plus, l'indication de l'élévation d'Allah ne fait l'objet d'aucune divergence auprès des salafs. Leurs écrits sont clairs, leurs paroles sont explicites, et le hadith est explicite sans opposition authentique. Les objections ne sont que des ambiguïtés soulevées par les gens de l'innovation, comme le stipulent les salafs. Et ce n'est pas nous qui jugeons en ces matières, mais ce sont plutôt eux qui le font. Et nous nous contentons de revenir à eux, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a certes ordonné de les suivre. Donc, celui qui rejette ce hadith, qui est bien connu des salafs, ne le met pas en pratique et cherche à trouver une raison pour le rejeter est un innovateur. Et c'est le critère pour qualifier une personne d'innovateur, que ce soit une question de croyance ou non. Si j'ai un hadith authentique et que les salafs ont mentionné sa signification et l'ont adopté, le contredire est considéré comme une innovation. Quant aux questions d'ijtihad, elles sont bien connues chez les salafs, tout comme les fondements sont bien connus. Il vous suffit donc d'apprendre pour les connaître. Si un groupe se rassemble autour d'un fondement qui contredit ses principes fondamentaux, alors c'est une secte déviante et innovatrice, à laquelle il n'est pas permis de s'affilier. Quiconque y adhère est considéré comme étant faisant partie d'eux. Et c'est le jugement d'Allah à l'égard des gens. Toute personne qui s'affilie à un groupe fait partie de celui-ci et prend les mêmes jugements que celui-ci. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et quiconque parmi vous s'allie à eux, il est alors des leurs. Et ceci est le jugement d'Allah, non le nôtre. L'amour, la haine et l'affiliation déterminent le jugement qui s'applique sur la personne en fonction du groupe auquel elle s'affilie. De cette manière, une personne devient un innovateur et le groupe devient une secte indépendante des autres sectes. Par exemple, les frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimin, ont établi pour eux-mêmes des fondements corrompus par leur interprétation, tout comme le groupe d'établir. Et ils se sont réunis autour de ces fondements, se sont alliés et se sont désavoués en fonction de ceux-ci, devenant ainsi une secte déviante, tout comme les Sururi et les Qutbiyin. Il est essentiel de noter un point, un dernier point. Lorsque vous regardez le fondement professé par les innovateurs ou les sectaires, ne vous concentrez pas uniquement sur le terme utilisé, mais comprenez ce qu'ils veulent dire par ces propos. Par exemple, lorsque vous entendez des termes comme tawhid ou adl, justice, ou ordonner le bien, interdire le mal, comme chez les Mu'tazila, en lisant ces termes, vous pourriez penser qu'il n'y a rien de mal à première vue. Selon ce qui est mentionné dans le Coran et la Sunna, ce sont en effet de bons termes, et la législation islamique incite à les appliquer. Mais il est crucial de revenir à leur interprétation concernant ces termes, et de ne pas immédiatement comprendre ce que vous savez des indications de la charia. Comprenez plutôt ce qu'ils entendent par là, et ce qu'ils veulent dire par là. Par exemple, les Mu'tazila veulent dire par tawhid la négation des attributs d'Allah. Et par la justice, l'adl, ils entendent par là la négation de la création par Allah des actions des serviteurs. Et ils entendent par le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, le fait de s'opposer aux dirigeants et aux gouverneurs, et se rebeller contre eux. Un fondement qui est à l'origine chez les Khawarij, et se retrouve aussi chez les frères musulmans, les Sururi, et chez les Qutbiyin. Pour eux, ordonner le bien et interdire le mal signifie le fait de se rebeller contre le gouverneur musulman. Et il y aura, Inch'Allah, une réponse spécifique à cette question. Mais de manière générale, nous disons, Allah subhanahu wa ta'ala a certes ordonné d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Mais t'a-t-il dit de te révolter contre le dirigeant injuste et pour interdire le mal? Ou bien t'a-t-il enseigné et clarifié que tu dois désapprouver avec ton cœur et ne pas être satisfait de ce que ce gouverneur injuste fait comme mauvaise action? Sans l'approuver, sans l'aider, mais sans pour autant retirer ton obéissance de ce gouverneur. Il y a plus de 100 hadiths qui clarifient ces règles. Et de même que ces hadiths prouvent que le gouverneur a un statut particulier concernant la manière de lui interdire le mal. En effet, interdire le mal publiquement à son encontre peut conduire à un mal qui est plus grand. Les savants, y compris les salafs, ont précisé que si le fait d'interdire le mal conduit à un mal plus grand, alors cette interdiction est en soi un mal et il est interdit de faire cela. Tels sont les fondements des gens de la Sunna. Et ce sont des fondements qui sont bien établis. Cependant, les frères musulmans, c'est-à-dire l'Ikhwan al-Muslimin, la secte, qui sont des menteurs, se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala en mentant, cherchant à tromper les gens et à leur faire croire que les gens de la Sunna, les adeptes du hadith et les salafis, soutiennent les oppresseurs. Naam, ya Ikhwa, c'est ce que vous trouvez maintenant sur les réseaux sociaux. Ils disent que les salafis soutiennent les gouverneurs injustes, ils soutiennent les oppresseurs. Et c'est ce qu'ils propagent parmi les gens de la masse. Et ils disent aussi que les salafis aident ces gouverneurs dans leur oppression. Et ceci est complètement faux. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre ces mensonges. Nous rejetons les injustices commises par les gouverneurs. Et nous ne les acceptons pas. Tout comme nous rejetons la corruption sur terre et l'absence de l'application des lois d'Allah. Nous rejetons tout cela et déclarons que cela est interdit. Cependant, nous nous conformons à la loi d'Allah dans notre façon d'agir avec eux. Nous ne suivons pas nos passions et nous ne sommes pas motivés par les biens de ce bas monde. Si nous voulions suivre nos passions, nous prendrions le même chemin que vous suivez. Car c'est le chemin des passions qui satisfait les désirs mondains. C'est pourquoi vous trouvez avec vous et derrière vous les foules ignorantes et sans scrupules. En revanche, celui qui veut la religion et suit le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourne immédiatement de vous, car il sait que vous êtes dans le faux, cherchant ce bas monde et le pouvoir. C'est votre préoccupation principale. Naam. Leur préoccupation principale est de rechercher ce bas monde et le pouvoir. Alors que la nôtre est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne nous soucions ni de vous, ni de ce que vous dites. En ce qui concerne les gouverneurs, nous ne faisons pas preuve d'exagération à leur égard, ni preuve de négligence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également informé et clarifié que la première chose à être abandonnée dans l'islam serait le jugement, c'est le fait de juger avec les lois d'Allah, et qu'il viendrait des gouverneurs qui ne gouvernent pas selon les lois d'Allah. Malgré cela, il ne nous a pas dit de nous révolter contre eux. Bien que les textes soient remplis d'incitations à la patience et à l'endurance envers eux, car se révolter contre eux mène à de grandes corruptions. Ensuite, la question qui est posée à Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah, quel est votre avis sur les groupes d'un point de vue général? Le Cheikh répond, Hafidhahullah, quiconque s'écarte du groupe des gens de la Sunna est un égaré. Nous n'avons qu'un seul groupe, celui des gens de la Sunna. Celui qui s'oppose à ce groupe s'oppose à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons également que quiconque s'écarte des gens de la Sunna sera considéré comme faisant partie des gens des passions. Les erreurs varient dans leur jugement, entre l'égarement et le tekfir, le fait de faire sortir de la religion, selon leur gravité et leur éloignement ou proximité de la vérité. Le Cheikh Ali Ramni Hafidhahullah commente en disant: la question posée ici est, quel est votre avis sur les groupes, les groupes d'un point de vue général? Le Cheikh dit, nous avons appris précédemment qu'il n'y a qu'un seul groupe dans la vérité, et qu'il n'y a qu'un seul droit chemin. Et cela a été clarifié par notre Seigneur dans le Coran. Expliqué par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah. Il l'a illustré de manière claire et précise, ne laissant aucune ambiguïté. Comme cela a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne droite. Et puis, il a tracé des lignes sur chaque côté, sur le côté gauche et sur le côté droit. Puis il a dit, ceci est le chemin droit d'Allah. Cela indique qu'il n'y a qu'un seul chemin. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ces chemins, sur les côtés, derrière chacun d'eux, se trouve un démon qui appelle à celui-ci. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la parole d'Allah, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Allah a ainsi utilisé le singulier pour le chemin en disant « mon chemin », car il n'y a qu'un seul chemin. Et il a utilisé le pluriel pour les chemins de l'égarement, en disant « les chemins », car ce sont de nombreux chemins différents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également clarifié cela dans un autre hadith, où il dit sallallahu alayhi wa sallam « par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, ma communauté se divisera en 73 groupes, un seul au paradis, et 72 seront en enfer. » On lui a demandé au messager d'Allah, qui sont-ils? Il répondit, Al-Jama'a, c'est-à-dire le groupe. Et dans une autre version, ce sur quoi je suis moi et mes compagnons. Cela montre à travers ces textes et d'autres qu'il n'y a qu'un seul droit chemin, et une seule vérité, et que la communauté sauvée auprès d'Allah et le groupe victorieux sont un seul groupe. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, il y aura toujours un groupe de ma communauté apparent sur la vérité. C'est donc un seul groupe. Et ceci est une évidence qui ne comporte aucune ambiguïté. Quiconque adhère au fondement de ce groupe, c'est-à-dire des gens de la Sunna, en fait partie. Comme l'ont mentionné l'imam Ahmed et Nu'aym ibn Hammad dans les propos précédents. Cependant, quiconque contredit un seul de ces fondements est un innovateur. Yani, il est considéré comme un innovateur égaré qui s'oppose à ce groupe et divise la communauté des musulmans, yani la communauté musulmane. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous rassembler sur cette voie. Et il ne nous a pas ordonné de nous rassembler simplement pour le rassemblement en soi. Notez la différence ici entre la compréhension de nombreux gens du commun et des sectaires et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour nous par le fait de se rassembler. Il y a une grande différence entre ce que les gens disent dans le rassemblement. Quand les gens vous disent il faut que les musulmans se rassemblent, il faut qu'ils s'unissent et autres. Et en réalité, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour nous par le fait de nous rassembler. En vérité, il nous a ordonné de nous unir sur la vérité. Pas de simplement nous unir, mais plutôt nous unir sur la vérité. Et non sur n'importe quel rassemblement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et attachez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. » Le sens est de s'attacher fermement au câble d'Allah, qui est son livre et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa législation sur laquelle était le pieux prédécesseur. Cramponnez-vous-y fermement et unissez-vous autour d'elle et ne vous divisez pas. C'est cela le rassemblement qui est demandé, c'est-à-dire un rassemblement sur la vérité. Quant au rassemblement sur le bien et le mal, alors celui-ci est rejeté. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Quraysh, ils étaient unis, mais il les a séparés en les guidant vers la vérité, distinguant le vrai du faux. Omar a été surnommé Al-Farouq parce qu'il distinguait le vrai du faux. Le Coran est appelé Furqan parce qu'il distingue le vrai du faux. Distinguer entre le vrai et le faux est donc nécessaire, tout comme faire la différence entre les gens de la vérité et les gens du faux. Ceci est une obligation religieuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Afin que périsse après avoir reçu une preuve manifeste celui qui devait périr, et que vive après avoir reçu une preuve manifeste celui qui devait vivre. » Contrairement à la méthode des laxistes, qui cherchent à rassembler les gens, qu'ils soient sur le droit chemin ou sur les voies de l'égarement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. L'objectif est que chaque individu suive la voie des pieux prédécesseurs et est avec ce groupe victorieux et le groupe sauvé. Selon leur fondement et leur chemin, quiconque contredit un seul fondement ne fait pas partie d'eux. Toute communauté qui se rassemble sur un fondement contraire au fondement des gens de la Sunna est une secte parmi les sectes égarées. Et il n'est pas permis pour le musulman de s'y affilier. Quiconque s'y affilie en fait partie et prend le même jugement qu'eux. Si le fondement qu'ils ont contredit est considéré comme une mécréance, il sera alors déclaré comme étant un mécréant. Mais si cette erreur est une innovation, alors le groupe en question est alors déclaré comme un groupe innovateur. Et quiconque s'y affilie est considéré comme un innovateur, comme les groupes égarés, tels que les frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimin, les Tablir, les Qutbiyin, les Sururiyin et autres que cela. Et pour ceux qui souhaitent un détail sur les fondements de ces sectes et ce dans quoi ils contredisent les gens de la Sunna, qu'ils lisent les livres des gens de la Sunna qui ont été écrits dans ce domaine. Et parmi ces livres-là, il y a le livre du noble Cheikh Ahmed al-Najmi qu'on a déjà mentionné, Al-Mawrid al-Azb al-Zulal. Il y explique les fondements sur lesquels ces sectes se sont égarées et on contredit les fondements des gens de la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.